The knee?
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a giblet sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't...
Nothing is true. Everything is permitted.
Yes. Do a barrel roll!
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tunic. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait, wait, wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Une Heure et des Pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Ce soir, je suis en compagnie d'Anna, Gomeissa, Sophie et Tizona. Comment allez-vous ?
Super bien, hein ? Et vous ?
Bah ça va super !
Ça va.
Très bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et ce mois-ci, nous recevons Néa Patel, notre invitée, compositrice et sound designer de Québec. Tu travailles dans l'industrie du jeu vidéo indépendant depuis 5 ans, avec des équipes partout à travers le monde. Néa, bonsoir, comment est-ce que tu vas ?
Oui, allô, salut, ça va bien, merci.
Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. On va maintenant écouter la chronique de Tizona sur le rapport entre les jeux musicaux et l'accessibilité quand la cadence exclut.
Alors, fin d'année dernière sortait le jeu Unbeatable par l'équipe de Dicels Games. Il s'agit d'un jeu de rythme que j'attendais depuis pas mal d'années. Et comme tout bon jeu de rythme, il propose évidemment un mode de jeu arcade. On peut tester toutes les musiques, c'est assez classique. Mais aussi un mode scénaristique qui m'intéressait tout particulièrement. Alors le jeu se veut assez franc, peu subtil, et on l'en remercie, lorsqu'il porte ses convictions politiques et sociales assez fortes dans son scénario, comme montrer et dénoncer assez fréquemment les violences policières devenues banales dans la société qui est dépeinte. Alors je comprends pas pourquoi notre président veut interdire l'accès aux jeux pour les ados, c'est plutôt réaliste moi je trouve. Bon, c'est peut-être ça aussi le problème. Bref, les musiques sont top, le game feel est chouette, le message et les personnages sont touchants, il y a pas mal d'inclusivité, notamment par le personnage de Treble, le claviériste du groupe de protagonistes, qui a un bras en moins. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai toujours cette sorte de crédulité à me dire que des jeux avec d'aussi jolies intentions, des messages aussi clairs à l'intérieur et ou à l'extérieur des jeux font preuve de cohérence dans leur game design. Et évidemment, je l'ai souvent dit par le passé, je suis très souvent déçue. Le jeu, il a beau faire une introduction plutôt bienveillante, quoique un petit peu poussive selon moi, pour appuyer un discours d'acceptation des forces et des faiblesses de chacun et chacune dans des jeux de rythme, un certain nombre d'éléments qui sont intrinsèques au système du jeu paraissent un peu dissonants, sans mauvais jeu de mots. Et je dis ça même pas d'un point de vue d'accessibilité pure, mais d'un point de vue d'expérience utilisateur. On a des menus qui sont inégaux, une personnalisation qui est limitée, voire contre-intuitive, des feedbacks qui sont extrêmement peu clairs et qui s'additionnent et ternissent l'expérience générale. Bref, mon incompréhension et ma déception sur ces points mis à part, le jeu reste très bien. Ça m'a juste fait faire une petite rétrospection sur les jeux musicaux ou de rythme, parce que souvent on est bien souvent plus sur des jeux de rythme où finalement la musique est plus un habillage, un prétexte, mais c'est, voilà, je vais pas non plus faire d'énormes raccourcis par rapport à ça. C'était d'autant plus douloureux d'ailleurs de se rendre compte que malgré une scène dont l'imaginaire est assez performatif, Unbeatable, bien plus moderne, plus inclusif, était pas très très bon par rapport à des cadors du genre dans la partie expérience utilisateur. Alors quand on parle de jeu de rythme, très souvent je pense qu'on va avoir l'image d'une part de Guitar Hero qui a été la première expérience de jeu de rythme de beaucoup, ou les performances acrobatiques et cardio impressionnantes de joueuses sur Beat Saber ou dans Dance Revolution, ou d'autres jeux d'arcade similaires. À cela on peut ajouter les lucratifs jeux musicaux sur mobile, qui s'appuient sur des licences célèbres, souvent plus au Japon qu'ailleurs, et de ce fait si on allie la notion d'accessibilité et de jeux musicaux ou rythmiques, on se retrouve rapidement à se questionner comment est-ce qu'on peut performer quand on est sourd ou malentendant sur un Guitar Hero like ? Comment est-ce qu'on joue sur une dalle lorsqu'on a un handicap ou des handicaps moteurs ? Bon, j'espère que votre vision du handicap est un peu plus large, hein, je vous fais confiance. Pour autant, les jeux de rythme ne sont pas forcément les plus antithétiques ni hermétiques face au sujet de l'accessibilité. J'ai envie de dire même qu'aucun genre ne l'est vraiment. Il y a beaucoup de mythes par rapport à la compensation cognitive, mais il n'empêche que grossièrement ça existe, c'est-à-dire le fait que le cerveau est en capacité de compenser des lacunes, des manques, donc par exemple qu'un stimuli sera plus fortement perçu par un récepteur fonctionnel si un autre ne l'est pas, alors de manière encore plus grossière, parce qu'on n'est pas dans un cours de neurosciences. La perception de stimuli visuels, elle sera forcément un peu plus fine si une personne est sourde ou malentendante, mais c'est aussi parce qu'il y a un biais d'attention. Autrement dit, si un jeu de rythme a des signaux visuels clairs, ce n'est pas impossible du tout d'y jouer sans entendre la musique et de performer. Il y a des jeux comme Crypt of Necromancer qui est assez connu, qui propose aussi des personnages jouables qui ne se basent pas sur le fait d'obéir au rythme du jeu, donc ce qui permet de donner soi-même le tempo. et d'apprécier le jeu. Il y a aussi un autre jeu, Mélatonine, qui est assez un petit jeu charmant, de rythme, sorti en 2022, qui proposait, quant à lui, directement un nombre d'aménagements visuels et expérientiels qui permettaient de clarifier à différents degrés les intentions et les attentes rythmiques du jeu, quitte à rendre l'interface plus présente dans des écrans qui sont de base assez immersifs. Du côté des jeux d'arcade, une des spécificités du jeu de rythme en arcade, c'est principalement les contrôleurs. Évidemment, en salle d'arcade, il y a peu de marge de personnalisation, mais qui dit connectique de contrôleur dit qu'on peut réussir à y brancher pas mal de choses différentes si on sait bidouiller un petit peu et qu'on a les moyens et la possibilité de le faire, évidemment. Alors c'est ainsi qu'il y a des personnes qui ont réussi à produire des hacks pour rendre des contrôleurs one button ou des contrôleurs personnalisés et adaptés à certains handicaps utilisables sur des jeux de rythme. La performativité, la complexité de chaque jeu devient d'autant plus personnalisable, surtout quand il y a des paramètres tels que la rapidité d'apparition des notes. C'est quelque chose qui a été présent très tôt dans les jeux de rythme réputés comme étant parfois les plus difficiles, hein, je pense à Beatmania, DJ Max et autres. Pour les jeux mobiles, on a beaucoup de jeux musicaux qui sont basés sur des systèmes de gacha. Alors c'est pas le cas de tous, hein. Il y a des jeux comme la série des Dimo, Citus, etc. Qui sont des jeux premium. Et malgré des systèmes de microtransactions, de monnaie de jeu qui sont basés sur des classements, du scoring, etc. La plupart de ces jeux proposent depuis des années et des années des modes assist qui valident automatiquement les notes tout en permettant aux personnes de jouer par-dessus. Donc ça laisse le sentiment de satisfaction d'une performance réussie tout en limitant l'échec. Alors évidemment ça limite le score, mais c'est pas vraiment là l'intérêt finalement. De plus en plus de jeux possèdent des paramètres assez poussés de personnalisation d'interface et d'expérience dans ce type de niche. Donc le jeu musical Bangrim sur mobile a ce genre de menu en trois volets qui est très complet là-dessus. Bref, non, c'est pas parce qu'un jeu est musical ou rythmique qu'il se prive d'une partie de la population de joueuses, en particulier de joueuses qui auraient des handicaps sonores. Au contraire, ce sont à la fois des nouvelles solutions, des nouveaux aménagements à imaginer et à mettre en place. Pitié, si jamais il y a des devs et des créatrices de jeux, je vous en supplie. L'accessibilité, c'est pas juste un onglet dans un menu, hein, je l'ai dit, j'ai l'impression de le dire chaque mois. C'est avant tout un des volets de game design réussi. Ça commence sur comment faire des bons menus, des bons tutoriels, des contrôles intuitifs, ou ne serait-ce que personnalisables. En 2025, alors je dis 2025 parce que c'est l'année de sortie du jeu, même si c'était fin d'année, mais aussi en 2026, quel que soit le genre, je trouve pas ça normal qu'on ne puisse pas remapper toutes les touches que l'on veut sur un jeu, que certaines touches lors du mapping fassent littéralement sortir des menus, car oui, c'est le cas de Mutable, que les menus ne se ressemblent pas selon l'endroit où on les ouvre, qu'ils ne soient pas même agencés de la même manière. Des ressources pour s'éduquer, il y en a depuis maintenant 10 ans environ, voire plus, sont mises à disposition gratuitement par des personnes concernées, donc c'est pas des coûts additionnels, c'est pas de la post-production nécessairement, mais c'est l'utilisabilité. L'utilisabilité c'est un élément pivot, majeur, c'est un pilier du game design, ça se réfléchit dès la vertical slice. Donc la vertical slice, c'est le moment où un concept du jeu est entièrement testable, à peu près. Et évidemment, comme on dit, même après une sortie, c'est jamais trop tard pour accorder ses violons.
Merci beaucoup, et merci beaucoup pour cette magnifique punchline. Tu as drop the mic, comme on dirait. On va maintenant écouter la chronique de Sophie, qui va nous parler de l'utopie au travail, imaginer des possibles.
En même temps qu'Ubisoft annonçait la restructuration de son groupe le 21 janvier dernier, je commençais la lecture du roman Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, qui m'a inspiré cette réflexion. Les Dépossédés racontent l'histoire du point de vue de Chevek, un physicien qui grandit sur une planète dont le système politique est l'anarchisme. Organisation qui a été pensée suite à l'exil d'une partie de la population de la planète voisine, dont l'organisation ressemble fortement à la nôtre. Chevek est curieux, et comme peu de choses leur sont enseignées sur la planète qu'ils ont quittée il y a des siècles, il décide de s'y rendre lui-même. Bien sûr, pour nous, lecteurs et lectrices, c'est intéressant de suivre cette découverte de ce monde, et de faire l'expérience, à travers lui, de l'écart. Un écart structurel, un écart de valeurs, de normes, d'organisation sociale, d'organisation du travail. Je trouve que la force d'Ursulin Le Guin est d'avoir un point de vue anthropologique et non techniciste de la science-fiction. En explorant des ailleurs, elle nous invite à questionner le monde dans lequel nous vivons. Alors en sociologie, on nous forme, généralement dès la première année, à rendre familier ce qui est étranger et rendre étranger ce qui est familier, et c'est exactement la démarche du roman. C'est intéressant parce que de notre point de vue de terriens et terriennes, et plus particulièrement d'occidentaux, ce sont les formes d'organisation égalitaire qui nous paraissent étranges, étrangères. Ce n'est pas le système capitaliste dans lequel nous sommes nés. Elle, Ursula Le Guin, elle fait l'inverse. Chevek n'a connu que l'anarchisme. C'est notre système qui lui paraît étrange. L'autrice nous pousse à regarder d'un œil neuf, parfois naïf, au bon sens du terme, le monde dans lequel nous vivons. Alors j'ai fait un petit exercice de pensée. Quelles seraient les observations de Chevek sur l'industrie du jeu vidéo ? Il découvrirait sans doute une organisation du travail hiérarchique, dans laquelle quelques personnes assurent la direction créative et qui se réveillent un lundi en disant « faisons ça ». Décision que les autres doivent suivre, parce qu'il y a ceux qui ont une vision et qui sont mis en avant dans les médias, comme des génies, et puis les autres. Il verrait aussi des nuances, des paradoxes, comme dans son propre monde. Il observerait que même dans une organisation qui se veut horizontale, dans des studios dits « indépendants », qui travaillerait d'une manière plus artisanale qu'industrielle, existent des rapports de pouvoir, de la maltraitance, que des fondateurs, lui dirait propriétaire, s'autoproclament directeurs créatifs et exercent un fort contrôle sur des personnes qui sont pourtant venues travailler dans des petites équipes pour avoir plus d'autonomie. Celles et ceux qui pourtant passent des heures à travailler, qui se servent d'outils de pointe, qui résolvent des problèmes complexes alors qu'ils exercent des métiers totalement différents. Il verrait des gens qui trinquent pour des décisions qu'ils ne prennent pas. Il verrait des personnes qui s'épuisent sur des projets qui n'ont plus aucun sens, des personnes frustrées de voir un projet annulé après y avoir mis du cœur à l'ouvrage. Il verrait des travailleuses à qui on n'adresse pas la parole et qui pourraient s'interroger « Quelle est ma place dans cette entreprise ?» Bien qu'il y avait des signes avant-coureurs, c'est par voie de presse, du jour au lendemain, que les salariés d'Ubisoft ont appris, en même temps que tout le monde, les nouvelles. Si nous, en dehors, sommes restés abasourdis, difficile de mesurer la stupeur des travailleuses. Pour citer un groupe brestois qui m'est cher, on pourrait facilement crier en chœur avec Chevek « violence, violence, violence sociale ». Et puis, Chevek, toujours aussi curieux, irait voir les salariés. Il les écouterait, et il saurait qu'ils et elles ont des choses à dire, que même celles et ceux qui ne luttent pas à visage découvert résistent à leur manière, en faisant croire qu'ils font ce qu'on leur demande de faire, en refusant les heures supplémentaires, et même qu'ils se prennent à imaginer qu'on pourrait organiser différemment le travail. Peut-être déjà en commençant par remettre en question le poste de directeur créatif. Alors peut-être que, comme Chevek, il serait bon de faire l'expérience de l'écart et de nous servir de notre créativité pour imaginer des utopies au travail. Peut-être qu'on pourrait ne pas se donner de limites à notre imagination et se dire que tout est possible. Tant pis si cela ressemble à de la science-fiction. Mais peut-être que dans les interstices, on trouverait des réponses. Les piquets de grève pourraient ne pas seulement être contestations, mais être aussi des lieux de proposition, d'imagination, d'espoir, possiblement. Peut-être qu'on peut se dire que puisque les patrons prennent des décisions sans concertation, alors oui, peut-être que nous aussi, on peut se passer de leur avis.
Merci beaucoup Sophie. J'ai trouvé ça super intéressant la façon dont tu as amené le propos justement sur les conditions de travail actuelles dans l'industrie du jeu vidéo par le prisme de ce roman. Et ce que tu dis à la fin est, à titre personnel, me... comment dire, espérer qu'on puisse trouver de l'espoir, c'est... Voilà, on espère toujours trouver de l'espoir. Je sais pas si... ce que je veux dire, c'est que ce que tu dis, ça apporte un peu de réconfort, quoi, de se dire qu'il y a toujours des possibles. Et c'était le but de ta chronique, hein, j'imagine. Et c'est vrai que... Oui, c'est vrai, moi je me dis toujours... on voit toujours la grève comme le fait d'interrompre le travail, mais après les gens, quand ils font la grève, ils se retrouvent sur des piquets de grève et ils discutent entre eux, mais c'est vrai que c'est justement aussi l'occasion de, dans ces moments-là, peut-être de discuter de nouvelles organisations du travail, de peut-être même s'organiser, comme tu le dis à la fin, sans demander l'accord des supérieurs. Enfin voilà, trouver des nouveaux modes d'organisation. Je sais pas trop... Enfin c'est compliqué d'avoir une réponse évidente parce que tout est possible, comme tu... C'est une question ouverte, quoi. On peut imaginer plein de choses.
Bah, tout est inventé, en vrai. Hein. Je pense que... Mais en même temps, c'est normal. Là, j'essaye de mettre des notes d'espoir, mais c'est normal que les gens soient submergés par les émotions, qu'ils soient plus en colère, qu'ils soient dans la contestation, qu'ils y aillent les manches retroussées et en mode bon.
Gomeïssa, tu voulais ajouter quelque chose ?
Ouais. Ça me faisait penser que du coup effectivement ça me faisait penser du coup au STJV et que justement il me semble que il y a une table ronde qui aura lieu d'ici un mois une table ronde organisée par Game Impact justement sur justement avec donc des gens donc du STJV et d'autres syndicats justement pour parler de ben de plein de choses, de qu'est-ce qui a été fait depuis la création, comment ça a pu se développer, il y a eu des échos avec d'autres regroupements dans d'autres pays, enfin bref, ça va être super intéressant du peu que j'ai pu voir de l'organisation, mais c'est un truc que je pense à suivre aussi peut-être. Alors c'est peut-être moins révolutionnaire que effectivement ce qui a pu être un peu évoqué vis-à-vis du coup de modèles complètement différents, mais bon, c'est déjà en tout cas un travail à faire justement pour modifier les choses au moins et pour faire en sorte que ce soit un peu plus juste à vivre, quoi.
Encore merci pour ta chronique, Sophie. On va maintenant écouter la chronique de Gomei Issa qui va nous parler du jeu vidéo éco-responsable.
Je disais dans la précédente chronique sur Terranil que le jeu vidéo n'était pas le loisir le plus sobre sur le plan de l'empreinte carbone, et ça pouvait donner l'impression que je préconisais d'aller plutôt randonner dans les grands espaces au lieu de parcourir les open world. Certes, le jeu vidéo est une industrie gigantesque qui représenterait le double de l'industrie du cinéma et de la musique réunie, et apparemment ça n'a aucun rapport avec la sécurité de l'emploi puisque les ouvriers qui fabriquent ces richesses sont les premiers à en pâtir. Donc forcément, le jeu vidéo a une empreinte environnementale proportionnelle et ça commence à faire. On va voir du coup quelques initiatives qui balisent les efforts que peut faire le monde du jeu vidéo sur la question de son éco-responsabilité. Côté industrie, il y a Playing for the Planet, qui est une initiative globale qui vise à regrouper les acteurs du monde du jeu vidéo qui souhaitent agir ensemble pour l'environnement. Parmi les ressources que propose Playing for the Planet, il y a un calculateur d'émissions, il y a un guide destiné aux studios pour accompagner le mieux possible vers un objectif de zéro émission nette. Donc zéro émission nette, c'est un des objectifs majeurs issus du rapport du GIEC pour la stabilisation du changement climatique, c'est-à-dire qu'en gros, on essaye d'atteindre un bilan carbone qui va être à zéro, qui du coup serait un petit peu l'un des débuts, on va dire, d'objectifs au moins pour stabiliser. On trouve aussi un rapport sur le game design comme levier vers l'action environnementale et un guide pour organiser des événements de la façon la plus éco-responsable possible. Et elles organisent aussi la Green Game Jam destinée aux studios pour créer des jeux qui permettent de lever des fonds pour la protection des écosystèmes. En France, si vous faites partie de l'industrie, vous connaissez sûrement Giros, l'outil de calcul d'impact environnemental des entreprises de jeux vidéo. Il met en lumière l'impact propre au fonctionnement du studio, mais aussi celui des jeux de ce dernier selon leurs spécifications et leurs cibles. C'est une aide au studio pour veiller à sa démarche RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et ça permet d'accéder à des aides soumises à une éco-conditionnalité comme celle du CNC. Il existe en revanche peu d'outils pour le grand public, et c'est pour ça que je vais m'appuyer sur le guide Eco-Gaming, jouons responsable, qui vient de sortir. C'est un gros travail réalisé par l'association Game Impact, qui a collecté, comparé et organisé plein de données pour en faire un dossier super simple et rapide à lire, avec des recommandations pour éclairer les choix qu'on peut être amené à faire, manette ou souris en main. Ils ont tellement bien bossé que leur guide est même certifié par l'ADEME, ça c'est la classe. Le guide répond à des questions pratiques sur le matériel, la consommation d'énergie, les téléchargements de données, et quelques pistes de réflexion critiques sur nos désirs de jeux toujours plus avides de puissance, de mémoire, de stockage et donc de matériel. Et le matériel, justement, c'est une question importante puisque dans le contexte français, la fabrication du matériel représente les trois quarts des émissions, alors que son utilisation représente seulement un quart. Et c'est normal puisque entre l'extraction des ressources issues du sous-sol, le raffinage, la transformation, l'assemblage, le fait que ça vienne de loin et que toutes ces étapes reposent en grande partie sur des énergies fossiles, on comprend que la fabrication du matériel pèse si lourd, même au regard de l'utilisation toute sa durée de vie avec de l'électricité bas carbone comme en France. On essaiera donc de privilégier l'occasion ou le reconditionner, voire même d'emprunter la console des potes, et de faire durer son matériel le plus longtemps possible. On rappelle au passage les 4 R de la transition économique par ordre de priorité. Réduire, réutiliser, réparer et recycler. Donc réduire nos achats, parce que le matériel qui pollue le moins, c'est celui qui n'est pas fabriqué. Réutiliser, c'est par exemple donner du matériel qu'on n'utilise plus à des associations, via un site comme ecosystem.eco. Réparer, au lieu de racheter, c'est un peu la vocation des Repair Café, il y en a sûrement près de chez vous. Et recycler, en dernier, oui, parce que quand il n'y a plus rien à sauver, surtout pour l'électronique, parce que le recyclage est difficile et incomplet. Question téléchargement, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux jouer à un jeu en cloud gaming, le télécharger pour y jouer, ou bien l'acheter en copie physique? Pour savoir ça, ça va surtout dépendre du poids numérique du jeu, et du temps qu'on va y jouer. Si c'est la démo du dernier AAA, donc plutôt un jeu lourd et qu'on va jouer peu de temps, alors clairement il vaut mieux y jouer en cloud gaming. A l'inverse, si c'est un petit RPG indé, un jeu léger mais qui va nous prendre 80 heures, alors il vaudrait mieux le télécharger. Et pour les jeux en boîte qu'on transporte en camion, c'est un peu le pire en termes d'émissions, donc c'est rarement préférable, sauf pour des jeux très lourds et qui sont très longs. Voilà, donc je raconte pas tout ce qu'il y a dans le guide, et je vous invite à aller le parcourir pour retrouver toutes les infos et les liens. C'est pratique, c'est concis, et c'est sur gameimpact.fr. Pour finir, je reviens juste sur la comparaison randonnée-jeux vidéo que j'ai fait au début, avec l'article donc de Sivar Wang chez The Breakthrough Institute, qui s'appelle « Si le jeu vidéo est un cauchemar environnemental, alors la randonnée aussi ». L'article montre que 2 heures de voiture thermique pour faire l'aller-retour de rando, bah ça produit environ 60 fois plus que de jouer 6 heures de PlayStation 4 en cloud gaming. Alors comme le calcul c'est pour la Californie, je vous l'adapte avec le mix électrique français, et là on a un ratio de 600 fois plus, parce que nous on a une électricité nucléaire bas carbone. Alors plus qu'une attaque contre la voiture ou une défense des jeux vidéo, c'est surtout intéressant parce que c'est révélateur de sur qui on décide de placer la faute et de sur qui on ferme les yeux. Bref, le jeu vidéo n'est pas exemplaire, et avec une estimation des émissions mondiales à la louche selon moi de 350 millions de tonnes équivalent carbone, mais je pense qu'en comparaison à des secteurs catastrophiques dont on peut facilement entièrement se passer, comme l'élevage, qui culminait d'après l'ONU en 2015 à 6,2 milliards de tonnes. It's not you, it's meat.
Merci beaucoup Gomeïssa. Anna, tu voulais réagir ?
Ouais, bah déjà, je voulais te remercier parce que c'est hyper intéressant et hyper pertinent. Chaque fois que j'écoute tes chiffres, je me dis que ça me laisse quand même sans voix parce que je me rends compte que je suis toujours aussi surprise. En fait, on a créé pas mal de jeux quand même pour sensibiliser justement à la cause environnementale. Et en fait, c'est assez terrible de se dire que ce sont ceux qui polluent probablement le plus. Et du coup, je trouve que ce paradoxe-là, en fait, il a mis trop de temps aussi à arriver. Dans les prises de conscience, hein. C'est un petit peu comme l'histoire de quand vous êtes petit et que vous achetez du poulet, puis vous voyez une super jolie poule, toute heureuse dans son pré, en fait. C'est là où on se dit, mais elle n'a pas du tout cette vie, parce qu'elle est morte dans mon assiette, et je trouve que c'est un peu pareil, c'est cette dure réalité. Donc, très, très intéressant de le souligner comme ça. Et je ne sais pas si on peut partager du coup des liens, mais ce serait super si tu pouvais nous partager aussi le lien... pour qu'on puisse du coup regarder ce dont tu parlais, car c'est vraiment très très riche. Et du coup, je ne vois plus du tout les randonnées de la même façon, mais ça me fait aussi penser que parfois, quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on oublie peut-être le but derrière, on oublie que l'idée, c'est de profiter justement du paysage. Ça me fait un peu penser à l'Everest, où en fait, on se rend compte que c'est devenu une poubelle géante, tellement les gens laissent les bouteilles d'oxygène, etc. Et c'est assez terrible de se dire que parfois, on fait des choses plutôt par défi, que vraiment pour profiter justement du paysage, pour profiter de la chance qu'on a. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce rappel.
Ouais, c'est... Non, mais j'ai pas non plus envie que les gens se disent faire de la rando, c'est pas bien.
Non,
que...
non, mais...
Mais c'est vrai que c'est intéressant.
Le sens, je pense, le sens qu'on a derrière, quoi, est important.
Ouais, oui, enfin, c'est toujours pareil. C'est... Tu vas te dire, ah, je vais aller faire de l'escalade en falaise, c'est trop cool, je vais voir des bestioles, machin, c'est trop bien, et puis je suis dehors, et puis il y a les arbres. Ouais, sauf que du coup, effectivement, rien que le temps d'y aller, en fait, pour en voiture, c'est aussi important. Après, c'est pareil, il ne s'agit pas non plus de s'enfermer et de ne plus rien faire, parce qu'effectivement, notre existence on ne fait que produire, effectivement, de la pollution, rien qu'en existant, pour tout un tas de raisons. Mais je trouve que c'était rigolo, en fait, de se dire aussi que peut-être que, quand on vise aussi un peu, on va dire, le secteur du numérique, pour... numérique en général, d'ailleurs, hein, pas que le jeu vidéo, sur son impact, et qu'on va se dire... Enfin, il y avait un tweet qui m'avait aussi un peu marqué, qui disait « Mais en fait, tous les gens qui disent que l'IA, c'est vraiment une catastrophe écologique, mais vous mangez de la viande. » Et encore une fois, c'est pareil, c'est toujours difficile de dire qui sont les bons, qui sont les gentils, qui sont les méchants, qui font bien, qui font pas bien. Il y a une espèce de truc un peu de pureté militante qu'il faudrait pas non plus tomber dedans. Mais je trouve que c'est intéressant de se rappeler que, effectivement, en fait, sur... La production d'électricité, nous en France, c'est particulier parce qu'on a un truc très bas carbone avec le nucléaire, mais effectivement, les chiffres que je donnais là, sur 60 fois plus, on va dire, que de jouer 6 heures à la PS4 en cloud gaming, ça marche pour la Californie, qui est plutôt, du coup, qui est à peu près 10 fois moins carbone, enfin, qui est un peu 10 fois plus que ce que nous, on a en France, comme en termes d'émissions pour un kilowattheure. Mais que ça encore, c'est. C'est plutôt le bon côté, la Californie, quoi. Il y a des endroits qui ont une énergie encore plus carbonée, avec encore plus de gaz, encore plus de charbon. Bref, c'est En fait, c'est un peu un truc où je me suis perdu. Je me suis dit, mais en fait, c'est de comparer des trucs avec des autres. Et puis, tu compares la rando avec le jeu vidéo. Puis, en fait, c'est de la voiture. Mais la voiture, c'est. Enfin, bref. Mais voilà, c'est compliqué. Mais je trouve que c'est intéressant, en fait, peut-être de prendre le recul, de se dire, mais qui est-ce que je vise et pourquoi est-ce que je dis ça? Est-ce que tu vois, je suis en train de défendre le jeu vidéo parce que bah, j'y ai des intérêts, parce que bah, moi, c'est une passion. Et que du coup, je serais peut-être plus facilement critique de tout ça si je n'avais pas cette passion de jouer au jeu vidéo. Enfin, bref. Très compliqué. C'est des errances sur internet, on va dire, quoi.
Encore merci pour ta chronique, Gomeisa. On passe maintenant à la première pause musicale avec Cornia's Theme, composée par Yoshimi Kudo, pour l'OST de Unicorn Overlord. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et tout de suite l'entretien avec Néa. Bonjour Néa, encore une fois, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit en début d'émission, donc, tu es compositrice et sound designer, tu as bossé sur plusieurs jeux indépendants comme par exemple Venbase, notamment où tu t'es occupé des effets sonores, ou encore sur Minimaker, Eternight ou Lost Your Marble par exemple. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la composition et du sound design, j'aurais voulu te demander c'est quoi en fait un peu à toi ton origin story. Est-ce que la musique de jeux vidéo et les jeux vidéo c'est quelque chose qui t'a toujours passionné, ou c'est au fil de ton parcours que tu es arrivé comme ça dans le monde du jeu vidéo?
Oui, absolument. En fait, c'est une histoire assez drôle. Quand j'avais 8 ans, on jouait à Final Fantasy VII. C'était l'ami de mon frère qui nous l'avait donné pour quelques semaines. Et puis, j'avais écouté la musique du Piano Collection qui venait avec. Puis, ça m'a complètement ébloui. Il fallait absolument que j'apprenne ça au piano maintenant. Je ne savais pas comment jouer du piano. Je voulais des cours de piano, en fait. Puis, pendant 2 ans, j'ai harcelé mes parents pour ces cours parce que mon rêve, c'était de jouer One Winged Angel et Those Who Fight sur le piano. Et puis, bon, voilà, j'ai commencé mes cours de piano à l'âge de 10 ans. Puis, je suis tombée en amour avec la musique classique aussi. Et dans le fond, j'ai fait
D'accord.
mes études en piano classique, mais je savais tout le temps que je voulais être en jeu vidéo. C'est juste que je savais pas exactement comment. J'ai commencé avec beaucoup d'arrangements de musique connue. Et puis, peu à peu, avec la communauté de jeux vidéo à Montréal, ben, j'ai commencé à faire des game jams, je suis allée à des workshops, j'ai rencontré plein de développeurs. Et puis, voilà, c'était un peu mon parcours pour arriver en jeu vidéo.
Oui, ça t'est quand même arrivé assez tôt dans la quand t'étais jeune, quoi. C'est tout de suite t'as trouvé ta vocation, quoi.
Ah oui, tout de suite, j'étais en amour.
On va bientôt être sponsorisé par Square Enix parce que on parle tout le temps de Final Fantasy et cette émission fait pas exception à la règle. Et c'est vrai que bah oui, Final Fantasy VII, je pense que c'est un jeu qui a marqué beaucoup de monde, notamment par sa musique. C'est tout à fait compréhensible que ça t'ait à ce point-là ému. Bah justement, parlons un peu de ta musique. Pour ceux qui ne connaissent pas ton travail, j'ai cité quelques noms de jeux précédemment. Comment est-ce que toi tu définirais ton style? Est-ce que tu as un style en fait à part entière? C'est-à-dire comment toi tu approches la musique avec quel état d'esprit tu approches ton travail de compositrice?
Oh, je sais pas si moi j'ai un style spécifique à moi, juste parce que, bon, voilà, tous mes projets ont été un peu partout avec les styles. C'est vrai
Oui, c'est vrai que ça dépend d'un
que ça
projet à l'autre, le
dépend,
style peut
ouais.
varier évidemment.
Mon projet sur lequel je travaille présentement, en fait, c'est très, très Final Fantasy. Et puis, le jeu s'appelle Spleen, on est en production. Puis, ça, c'est mon rêve. Ça, c'est, je dirais pas facile, mais ça me vient naturellement. Puis quand j'aborde les projets, dans le fond, n'importe quel projet, c'est de m'immerser dans les références. C'est important pour moi que la musique que j'écris, c'est pas pour moi, mais c'est bien et bien pour le jeu, pour l'histoire du jeu. Donc, ce n'est pas ce qui me plaît exactement, mais c'est ce qui plaît l'esprit du jeu et même l'équipe, en fait. Fait que c'est ça. Pour chacun des projets, il faut que je m'immerse dans leur monde et que la musique aide le jeu, c'est juste ça.
D'accord. Et parce que du coup, vu que tu travailles en freelance, t'es quand même en échange permanent avec les développeurs pour avoir des retours sur ce que tu leur proposes.
Oui, mais en fait,
Comment ça se passe?
je suis moitié-moitié. En fait, j'ai commencé un emploi comme directrice audio à une compagnie à Montréal. En fait, c'était le tout premier jeu que j'ai jamais travaillé dessus. J'étais encore étudiante. L'équipe s'appelle Pamplemousse. Et puis, le jeu s'appelle Spleen, et avec eux, je travaille à temps partiel, et on a passé des années à se connaître, puis ça, tu sais, on a beaucoup de références, il y a beaucoup de back and forth, et on se comprend très bien, et ça, c'est le jeu
Oui.
très, très, très Final Fantasy-esque. Puis pour mes contrats de freelance, même chose. Il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de back and forth, il y a beaucoup de références.
Ok, je vois. Et bah justement, tu parlais de tes sources d'inspiration, donc c'est en partie Final Fantasy. Mais justement, je me demandais est-ce que tu as d'autres influences? Parce que en dehors peut-être même de la musique de même en dehors de la musique de jeux vidéo, par exemple, c'est quoi tes influences majeures?
La musique classique, le monde tu sais, j'ai été formée en piano classique quand même. J'adore mes compositeurs russes, Rachmaninov, Shostakovich, Prokofiev. Ça, c'est mes plus grandes influences. Bach, évidemment, mais énormément la musique classique sur laquelle j'ai été formée.
D'accord, ouais. Et du coup, bah, ça me fait penser, j'ai envie un peu de te poser la question, est-ce que tu suis un peu le travail d'autres compositeurs, comme par exemple, tu parles de musique classique et de piano, moi ça me fait penser à Mao Tzu, qui bosse aussi sur les Final Fantasy. Et je me demandais, voilà,
Ce sont des
parce que
génies.
FF7, c'était du coup Nobuo Uematsu, et plus tard, il y a Amaotsu qui est arrivé sur la franchise. Et voilà, qu'est-ce que tu penses du travail d'Amaotsu en dehors du fait que ce soit un génie?
Ce sont des génies, c'est incroyable. Tu sais, moi, j'ai rien à commenter, sauf que waouh.
Ouais. Et tu penses quoi aujourd'hui de la façon dont la musique de jeux vidéo est vue par le grand public? Tu penses que, parce que on a fait une dans la dernière émission, on avait justement eu une discussion sur ce que c'était que de la bonne musique de jeux vidéo entre guillemets. Et voilà, moi je me demandais qu'est-ce que aujourd'hui tu penses de la façon dont la musique de jeux vidéo est traitée dans les, que ce soit dans les médias ou par les joueurs. Tu crois qu'elle pourrait avoir encore plus de être encore plus mise en avant à travers des concerts, ce genre de choses?
Bon, voilà, moi je suis biaisée, je suis dans le domaine. Donc c'est certain, oui, que je veux le voir partout, que je le veux sur la radio, je veux plus de concerts, je veux plus de tournées, j'en voudrais toujours plus, mais bon voilà, moi je suis dans le domaine, hein, fait que c'est pas exactement juste ce que je dis, mais c'est certain que oui, il y a une grosse différence autour, après les genre au cours des années, parce que tu sais, moi je pratiquais mes musiques de jeux vidéo en cachette. Parce qu'il fallait pas, d'accord, que je monte ça à l'école. Fait que moi, je faisais tout ça en cachette. Alors que là, moi, là, ça fait quelques années que j'enseigne plus, mais quand j'enseignais du piano, moi-même, tu sais, j'étais de très grande ouverture d'esprit. Oui, on fait la musique classique. Oui, il faut pratiquer les gammes. Mais oui, aussi, on peut faire du Final Fantasy dans nos cours de piano. C'est correct. Mm-hmm. c'est quand même de l'apprentissage. C'est de la vraie musique.
C'est marrant que tu dis ça, parce que j'avais aussi une prof de musique au collège qui jouait des musiques de Final Fantasy. Elle avait joué le thème de Tifa en cours une fois. Oh, j'étais, wow, le seul de la classe à avoir reconnu, du coup ça m'avait beaucoup marqué.
Ouais, non, c'est certain.
Oui, donc ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui la musique, on le voit avec... Bah, y a de plus en plus de succès et de plus en plus de concerts, mais c'est sûr que ça fait plaisir de voir que ça prend de l'importance et que les gens s'y intéressent, quoi.
Ouais, puis c'est un bel... Tu sais, c'est quand même un accès à la musique. Pour moi, j'ai commencé en jeu vidéo, puis je suis rendue en musique. Mais j'étais, à un moment donné dans ma vie, beaucoup dans la musique classique. Puis on se plaint que, il n'y a pas de gens à l'opéra. Moi, j'adore l'opéra, j'adore la musique classique et tout. Mais c'est grâce aux jeux vidéo que j'ai eu accès à ce monde-là.
C'est vrai, c'est une bonne porte d'entrée vers cet univers. Et pour revenir, justement, on parle de musique, mais tu fais aussi du sound design. Et donc ça va peut-être sembler être une question un peu bête de ma part, mais c'est voulu. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la différence entre le sound design et la musique? Est-ce que pour toi c'est deux métiers totalement différents, ou est-ce que la musique ça appartient au sound design? Voilà, comment tu vois ces deux domaines?
Ce sont deux domaines complètement différents, mais avec une base de son. Donc oui, ce sont... Il y a beaucoup d'entremêlage, hein, entre les deux domaines. Puis moi, j'ai commencé en tant que compositrice et ensuite, j'ai appris le sound design par moi-même. Et puis, mes outils en composition m'ont tellement aidé en sound design, là. Genre, je peux pas faire du sound design, moi, perso, sans les outils que j'ai déjà acquis. Je sais aussi que genre mes oreilles ont été formées d'une certaine façon. Tu sais, j'entends des fréquences, j'ai l'habilité j'ai l'habilité de voir, ben pas voir, mais comme faire attention aux détails, aux quelques fréquences. Donc oui, ce sont deux domaines différents, mais ils s'entremêlent, ce sont des cousins, ce sont de la famille.
Oui, je vois, ouais. Donc c'est ton travail sur la musique qui t'a permis après de te diriger vers le sound design, finalement.
Oui.
Et maintenant, tu fais les deux.
Je fais les deux, oui.
Et comment ça se passe, justement? Par exemple, il y a des jeux, comme on va en parler un peu plus en détail après, mais il y a des jeux sur lesquels tu n'as fait que le sound design, et d'autres jeux sur lesquels tu as fait le sound design et la musique. Est-ce que c'est une façon différente de travailler? Est-ce que tu t'investis différemment dans le jeu quand d'un côté tu ne fais que le sound design, enfin entre guillemets que, mais quand d'un côté tu fais le sound design et de l'autre tu fais aussi la musique? Comment tu le perçois, toi?
C'est le fun. Moi, je m'amuse avec les deux situations. Hein. Puis dans les deux situations, la musique, on collabore intimement. que ce soit moi qui écris la musique ou que ce soit quelqu'un d'autre, il y a quand même cette communication, soit envers moi-même, soit avec quelqu'un
Oui, bien sûr.
d'autre. Mais, tu sais, j'aime faire les deux. Puis souvent, les projets où je n'ai pas fait la musique, ben, je suis très contente d'avoir pas fait la musique parce que j'avais pas, tu sais, la musique de Venbo ou Eternite, c'est tellement spécial, c'est tellement unique que c'est un style que je connais pas très bien, que j'aurais sûrement pas fait justesse à ce qui est finalement le résultat final.
Et oui, justement, pas sur Venba, donc qui est un jeu de cuisine. Et c'est de la. Dis-moi si je me trompe, mais c'est de la cuisine indienne, c'est ça?
Oui, du sud,
Ok.
spécifiquement
Et
du sud de l'Inde, Tamil Nadu, c'est la province
d'accord, ok,
du sud.
très bien. Et donc, bah, tu as fait les sons de ce jeu, donc le sound design de jeu, et notamment là, des bruits de cuisine. Et j'imagine que bon, bah, les gens qui nous écoutent doivent se demander comment tu procèdes concrètement, comment ça se passe. Déjà, comment tu fais? Et ensuite, est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pour créer certains sons?
Fait qu'en général, avec les projets de sound design, j'utilise très souvent, régulièrement, des banques de sons. Fait que ce sont des banques déjà existantes et je prends tu sais, la source du son et je la modifie et blablabla. Avec Venba, ce que j'avais réalisé très très vite, c'est que les sons de cuisine déjà existantes ne sonnaient pas comme ma cuisine indienne, comme celle de chez mes parents, comme celle auquel j'ai grandi. Fait que pour Venba, exceptionnellement, j'ai cuisiné les mets indiens et j'ai tout enregistré, j'ai filmé le procès, c'était très important pour moi d'avoir ce son, pour moi, qui est très, très nostalgique. Genre, le son de bacon, c'est délicieux du bacon, mais ça ne sonne pas comme les graines qu'on utilise en début du procès dans une recette. Fait que oui, pour Benba, je fais pas ça pour tous mes projets, parce que ça ne le nécessite pas tout le temps. Mais avec Venda, c'était très important pour nous d'avoir carrément nos propres banques de sons.
Ah bah oui, là pour le coup, si tu t'enregistres en train de faire la cuisine, oui, je pense qu'il n'y a pas de manière plus fidèle d'avoir le son comme dans la réalité, quoi. Et justement, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que c'était difficile d'enregistrer la cuisine
Ouais,
ou pas du tout?
c'était difficile, ouais. En
Ouais.
fait, j'avais pas de. Ça, c'est durant 2021, fait qu'on était quand même. Ben, pas quand même. On était définitivement en plein COVID. Je vivais dans un tout petit appartement. Puis, j'étais très pauvre aussi. Financièrement, ça allait pas bien. Fait que j'avais pas d'équipement très, très professionnel, disons. J'avais la base, j'avais un petit Zoom H4n. Mais j'avais pas de stand, j'avais pas, tu sais, un studio
Oui, bien sûr, ouais.
bien sonorisé, j'avais rien de tout ça. Fait que j'attendais que les autos passaient, puis je fermais les
Ah.
fenêtres et tout. Je pense que j'avais même débranché le frigo parce que le frigo faisait trop de son, puis un petit appart fait que t'entendais tout. Puis le poêle était juste à côté du frigo. Et puis je mettais mon micro comme sur des cartables ou du papier ou même un truc en plastique, comme un petit pot en plastique. Puis pendant que je cuisinais, ben j'avais comme. Tu sais, je me suis brûlée moi-même. Puis j'avais brûlé des cartables, j'ai fondu un peu de plastique. Il y a eu quand même plein de petits incidents, tu sais. C'était pas. Tu sais, je me suis pas blessée gravement. J'avais quand même mes crèmes anti-brûlure tout près de moi. Mais. Tu sais, j'avais pas d'équipement ultra professionnel non plus. J'utilisais ce que j'avais chez nous.
Bon, en tout cas, c'est 100% authentique.
Merci.
Bah, j'ai vu que donc tu as fait d'autres projets, par exemple Eternite. Bah, c'est un jeu qui n'a absolument rien à voir avec Venba, hein, pour le coup. C'est un style totalement différent. Et ce genre de projet-là, tu travailles comment dessus? J'imagine avec des banques de sons, peut-être plus sur ce type de projet.
Exactement. Avec Eternite, c'était un projet où je n'étais pas la sound designer, tu sais, je n'étais pas seule. C'était une équipe je pense que c'est à Boston. Gina Zdanowicz de Serial Lab Sound, elle cherchait quelqu'un pour porter, tu sais, un peu d'aide extra. Fait que c'est un
D'accord.
projet plus, pas facile, mais dans le sens que la direction audio était établie, le asset list était fait, j'avais juste à vraiment faire les sons, puis qu'eux, ils les jugent. Fait que c'était un procès plus simple que vraiment. Il y avait beaucoup de soins à faire en très peu de temps, mais la direction claire était bonne et l'équipe était très respectueuse et c'est facile à travailler avec.
C'est vraiment des façons très différentes de travailler selon les projets et selon les et selon aussi que tu sois en freelance ou que tu sois directement dans la boîte, quoi. J'imagine que
Exact.
t'appréhendes pas ça de la même façon. Et justement, bah, je me demandais comment ça se passe pour trouver des projets. Toi, personnellement, c'est toi qui prospectes et qui cherches des équipes qui recrutent ou c'est eux qui viennent vers toi parce qu'ils ont entendu parler de ton travail. Comment ça se passe en général?
C'est moitié-moitié. C'est un peu bizarre. J'ai jamais, pas jamais, mais je pense qu'avec Serial Labs, avec Eternites en fait, c'était sur Twitter avant Elon Musk. Mais dans le fond, c'était juste Gina qui avait écrit, je cherche un sound designer pour un projet plus gore action. Et j'ai appliqué vraiment sur Twitter. C'était juste ça. Je lui ai envoyé un DM avec mon portfolio. Avec Venba, c'était. On se followait sur Twitter, puis j'aimais beaucoup les screenshots qu'il postait. Puis apparemment, il aimait ce que moi j'ai posté sur Minimaker. Puis on se parlait pendant un an, pas personnellement, mais juste sur des posts. Puis c'est eux qui
Bien
m'ont
sûr.
messagé un an après, disant que, hey, ça te tente-tu? Fait que vraiment, ça dépend. Il y avait beaucoup, j'ai eu beaucoup de projets via les réseaux sociaux. Et en fait,
Oui, quand même.
ça m'a aider à établir, tu sais, comme une base. Puis maintenant, cette base-là, ça m'aide à, tu sais, je connais plus de gens en audio. On s'entraide beaucoup dans la communauté audio, en fait. Sur le projet sur lequel je travaille en ce moment, All Will Rise, le compositeur Ramsey, ben, c'est juste un ami. Puis on a toujours, tu sais, blagué ensemble que ce serait le fun de travailler ensemble. Puis,
Oui, bah.
lui, il a été embauché pour ce projet, puis il avait besoin d'une sound designer. Et voilà, je simplifie ça beaucoup. C'est pas juste ça,
Non,
mais
mais j'imagine que
ouais.
c'est toujours différent selon les projets, quoi. C'est pas.
Ouais, c'est pas juste les
Oui.
réseaux sociaux non plus, c'est beaucoup la communauté en game audio,
Oui, bien
je
sûr.
dirais. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de. Tout le monde se connaît, hein? Le monde est petit en
C'est
game
vrai, ouais.
audio. Et puis, vraiment, ça a commencé. Mon premier gig, Minimaker, c'était un ami. C'est juste ça. C'est un ami qui connaissait une équipe, qui avait besoin de composition et de sound design, puis il m'a référé. Donc, c'est ça.
Ok, ouais, ça me fait penser que c'est triste le destin de Twitter aujourd'hui, ce que c'est devenu, alors que justement c'était une plateforme quand même incroyable pour faire des rencontres comme ça, professionnelles pour des projets et tout, c'était bien quoi. C'est dommage que ce soit devenu ce que c'est. Et justement, oui, tu parlais de beaucoup qu'il y a beaucoup d'entraide entre les compositeurs et dans la communauté de la musique de jeux vidéo. Et justement, toi, tu fais beaucoup de, j'ai vu, de conférences et de. T'as même lancé une newsletter, je crois, récemment, pour justement aider les compositeurs ou les travailleurs du son dans le jeu vidéo à se lancer en freelance, aussi pour voir comment ils fixent leurs tarifs, ce genre de choses. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, notamment aujourd'hui à l'époque où, à l'ère des plateformes de streaming qui rémunèrent très mal les artistes. Bah voilà, c'est comment tu. C'est quoi j'ai une première question. Moi, je me souviens que j'avais lu. Lu des publications à toi qui disaient qu'il fallait fixer un tarif minimum, on tarif la minute, c'est ça, de musique,
Oui.
quand tu travailles en freelance. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe en termes de bah, comment les compositeurs font pour vivre, tout simplement, de leur métier?
Oui, donc moi, c'est vraiment spécifiquement en jeu vidéo indie, hein. Fait que le
Oui,
triple A et tout
ok,
ça, c'est
ouais.
différent, les règles sont
Très bien, ouais.
différentes et je m'y connais beaucoup moins. Mais dans le fond, si oui, je dis, on voit souvent le chiffre 1 000 $ par minute de musique finie. Et j'ai réalisé qu'en fait, ce chiffre-là, 1 000 minutes, puis je l'ai dit moi-même multiples de fois, en conférence, un peu partout dans le monde, dans le fond, il date de 2016 au moins. Fait que ça fait 10 ans qu'on parle de 1 000 minutes par, 1 000 $ par minute de musique.
Oui, 1 000 dollars
Avec
par minute.
l'inflation et tout, on est rendu, tu sais, on peut faire ça un calcul très rapide sur Google, on est rendu à presque 1 400. Fait que, ça fait longtemps qu'on parle de chiffres pas réalistes qui ne matchent pas avec le monde qui a changé vraiment.
Bien sûr.
Puis, bon, voilà, je veux pas. C'est, moi, c'est rare que je dis 1000 $, que vraiment je charge 1000 $ parce que je suis tout le temps, et je dis ça à tout le monde, mais je suis très ouverte à la négociation. Fait que le 1000 ou 1400, whatever, c'est vraiment comme un chiffre de départ. Puis ensuite, je vais le changer, dépendamment de c'est quoi le style de musique, c'est quoi les échéances, c'est qui l'équipe, est-ce que vous êtes facile ou difficile à travailler avec. Tu sais, moi, je commence, quand c'est une nouvelle équipe ou des nouvelles personnes, je m'informe avec la communauté ou avec mes petits whisper network qu'on appelle, de qui est cette, disons que je connais vraiment pas la personne, tu sais, c'est qui est cette personne, est-ce qu'elle est facile à travailler avec, est-ce qu'il y a déjà, tu sais, comme, ah, c'est un client difficile, attention, tu sais. Des trucs de même. Heureusement, ça m'est presque jamais arrivé. Mais, tu sais, souvent, tu sais, je veux pas faire peur aux développeurs et aux gens de ah, c'est 1000 piastres, oh non, 1400 par minute, et je ne bouge pas de là, ce n'est pas un standard fixe avec une union ou quelque chose de même. Mais c'est un chiffre avec lequel je peux commencer à négocier puis à parler avec. Je suis ouvert à réduire le scope, réduire le nombre d'instrumentations. Est-ce que quelque chose qui est très important pour moi, c'est les revenus sur Steam du OST.
Bah justement, c'est la question que je voulais te poser. Comment ça se passe? Comment on... Parce que j'imagine qu'un compositeur freelance va faire la musique, mais après, comment on décide à qui reviennent les revenus après la sortie du jeu, en fait? Comment ça se... Sur la vente de la bande-son, par exemple.
Donc, ce que je dis, c'est dans le contexte d'un freelancer et non un employé, parce que là, les règles sont différentes. Donc, spécifiquement, un freelancer, je suis très strict sur le fait que je veux garder le OST. Excuse-moi. Je vais garder les OST rights, les sales sur OST sur la plateforme de Steam. Parce que quand tu vends...
Donc ça, c'est une condition que tu poses, en fait.
C'est important pour moi parce que les sous dans... Tu sais, souvent, les développeurs sont comme « Oh, je te donne les droits sur Spotify et Bandcamp et whatever. » Mais ça, c'est littéralement des scènes. C'est pas du vrai cash, c'est quelque chose de si peu que ça ne vaut presque pas la peine. Par contre, la musique sur Steam, le OST, souvent c'est vendu en un bundle, genre « Ah, le jeu plus le OST pour X dollars ou whatever, ou juste le OST en tant que tel », ça, c'est énorme, surtout pour un individu. Peut-être que pour le studio, 10 000 $, c'est pas grand-chose, mais pour un individu, ça change ta vie.
Oui, c'est sûr.
Et plus que ça, c'est que la musique que les compositeurs font pour le jeu versus la musique qu'on fait pour le OST, l'album, elles sont complètement différentes. Le mix, le mastering, les coupures, le editing,
c'est un autre, c'est un autre travail, quoi.
C'est un autre job, c'est une autre chose au complet. Fait que, pour moi, c'est important d'être, quand tu es freelancer, d'être compensé pour ce travail-là.
Oui, c'est vrai. Et ça me semble important de le demander parce que je pense que la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte forcément que...
Il y a de l'argent là-dedans. Pas que souvent...
Oui, mais non seulement en tant que compositeur, on a quand même... c'est normal, je pense, d'avoir un certain droit sur sa propre création, quoi.
Exactement, parce que ce n'est pas un domaine, ce n'est pas la programmation. Il faut se rappeler qu'on gère avec l'industrie de la musique. Et non juste des travailleurs autonomes. Il y a une histoire avec l'industrie de la musique, la vente des vinyles, des disques, des cassettes ou whatever. Fait que c'est pour ça que tu sais, c'est important pour moi qu'on parle de ça. Si jamais tu sais, le développeur est comme absolument non, je peux pas faire ça, pas du tout, ben là, je monte mes frais de beaucoup. Parce que je sais que là, je vais plus jamais revoir l'argent de mon travail vraiment que j'ai fait. Puis la musique, c'est pas juste « Ah, j'ai joué le jeu une fois, puis voilà. » Non, 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 t'écoutes ça. Tu sais, c'est quelque chose qui reste avec toi. C'est quelque chose de...
Bien sûr, oui. Ah ben là, on est tout à fait d'accord, oui.
Un détail important, c'est que j'entends souvent des gens dire que « Ah, ben le développeur m'a dit que c'est trop compliqué sur Steam de faire les calculs et tout, et voilà. » Et moi, je dis que non, pas vraiment. En fait... en tant que développeur, tu calcules le revenu de ton jeu, Ben, le OST, c'est exactement la même équation. En fait,
Oui,
quand
ben.
on achète quelque chose dans un magasin, tu sais, il y a le code SKU, les codes barres ou whatever. Fait que sur Steam, le code barre du jeu et celle de la musique sont séparés. Il y a pas de, tu sais, c'est vraiment clair combien le jeu a vendu. Et ben, oui, il faut faire les maths, le calcul, la multiplication et tout. Mais ce n'est pas tant de travail administratif. Puis, souvent aussi, je dis que bon, voilà, on va mettre un threshold de tu me payes seulement si la musique a franchi ce nombre-ci. Parce que bon, faire des virements Interac pour 20 $, ça ne vaut pas la peine pour
Oui, bien sûr.
personne.
Oui, je comprends.
Puis on peut faire ça, les virements, une fois par année, on peut faire ça une fois au quarters, tu sais, ça se négocie. Puis, oui, c'est du travail administratif, mais ce n'est réalistiquement pas tant que ça.
Bah merci beaucoup parce que moi c'est vraiment une question que c'est une question qui me taraudait beaucoup l'esprit parce que je me suis toujours demandé comment ça se passait pour les compositeurs en termes de parce que c'est des musiciens comme les autres, hein, donc je me demandais comment ils étaient rémunérés. Bah, je crois que, écoute, on est tout bon pour la première partie de cet entretien. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. On va continuer après la pause musicale. Nous écoutons What's Your Third Sona, composé par Mars Kai pour l'OST de 30 Suitors. Vous écoutez 1 heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Néa pour la suite de l'entretien. Donc Néa, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau-là en particulier?
Parce que j'adore sa musique et j'adore le jeu. C'est un jeu à propos du generational trauma dans une famille indienne. C'est quelque chose qui combine l'action, la cuisine, l'histoire. C'est tellement magique comme concept et la musique le démontre. La musique, c'est vraiment le cœur du jeu. Thirsty Suitors, je le recommande à tout le monde. C'est quelque chose vraiment d'unique, de magique, qui n'existe seulement qu'en jeu vidéo. Et puis bon, on voit très rarement des South Asian gens ou des brown people en jeu, fait qu'un jeu
Oui,
rempli
oui.
de ça, de bienfaits, pas de stéréotypes, hein, mais qui raconte une histoire, réellement, c'est spécial.
Oui, c'est clair que ça fait toujours plaisir d'avoir de la représentation sous toutes ses formes. Est-ce que quelqu'un avait des questions à poser à Néa autour de la musique, du sound design ou d'autres choses? Oui, Gomeïsa.
Ouais, et ben du coup, merci pour ce partage du coup, Néa, c'était hyper intéressant. Et moi, je me demandais, parce que j'ai pas mal vu, du coup, des... J'ai pas joué, par exemple, à Venba, mais je l'ai pas mal vu, parce qu'il y a un spectacle qu'on a fait plusieurs fois qui fait intervenir Venba sur scène. Et du coup, je me demandais, pour les sons de cuisine, tu disais donc, que t'avais dû, non pas recourir seulement à des sons préenregistrés, on va dire, enfin, des sons qui existaient déjà, quoi, parce que j'imagine que c'est peut-être des sonorités qu'ils n'entendent pas ailleurs, comme tu parlais du bacon, justement. Et je me demandais s'il y avait, en particulier, donc des choses que tu avais dû refaire. Est-ce que tu as dû refaire genre, les vraies recettes, exactement, pour que ça marche bien? Et aussi, une autre question, est-ce que, justement, tu as peut-être triché en faisant des sons de cuisine, mais qui ne sont pas exactement la chose qu'on voit visuellement, par exemple, justement, des fois, pour faire le son de la pluie, justement, faire griller un truc dans l'huile, ça marche bien. Est-ce que tu as aussi eu des sortes de petites astuces comme ça?
Oui, absolument. Je l'ai fait partout. Ce qu'on entend, c'est pas ce qu'on fait réalistiquement, c'est pas tout le temps ce qui est satisfaisant à l'oreille. Ou parfois, c'est comme décevant. Genre, tu t'enregistres le son exact, puis t'es comme, oh, c'est bien plate. Ça sonnait plus épique dans ma tête, right? Fait qu'il y avait des fois où je le modifiais, où j'ai réutilisé des sons dans d'autres sections ou autre chose. Puis ensuite, pour la première question, je n'ai pas fait toutes les recettes, mais la recette du biryani, ça, je l'ai faite de scratch, de début à la fin. Puis aussi, il y avait une section où tu fais des muroukous. Des muroukous, tu le deep fry dans l'huile. Et ça aussi, ben, j'ai pas fait des muroukous, mais j'ai fait des bhajia, qui sont des trucs gujratis, mais que ça ressemble assez, hein. J'ai triché.
OK.
Fait que j'ai pas fait toutes les recettes, mais j'ai biryani, puis tout ça, c'est la recette la plus longue dans le jeu. Et puis, donc, c'est celle qui m'a donné le plus de son pour la banque.
Trop bien.
Oui, Tizna?
Merci beaucoup pour l'entretien, c'était super intéressant et c'est vrai que c'est pas très souvent qu'on a la possibilité d'avoir des insights par rapport au sound design parce que quand on parle de son et de jeux vidéo, très souvent c'est la musique qui revient en premier, c'est pas si souvent que ça le sound design. Moi j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a des projets, enfin des jeux auxquels tu as pu jouer ou que tu connais où tu aurais aimé travailler sur le sound design ou alors plutôt tu as été impressionné par la manière avec laquelle le sound design avait été géré.
Oh là là, attends, je vais vite ouvrir ma Steam parce qu'il y a tellement de jeux, il y a tellement de jeux où j'étais tellement impressionnée ou ah là là, où est-ce que je commence. Désolée, ça va. Et j'aimerais ça prendre un jeu que, tu sais, c'est pas trop populaire non plus, mais... tu sais quoi? Ben, ok, non, je vais pas dire celle-là. En fait, il y a un jeu qui m'a... Je sais pas si c'est exactement que... Ah oui, je travaille dessus, mais ça m'a tellement impressionnée que je suis pas assez bonne pour travailler dessus. Rhythm Doctor, c'est un jeu de rythme. Et... Ah oui, Rhythm Doctor et aussi Wonder Song. Rhythm Doctor, c'est vraiment un jeu de rythme, mais la musique est incroyable. Le timing, c'est tight. Tout est juste tellement bien fait. Puis ensuite, Wonder Song, le concept du jeu, c'est la musique. C'est vraiment... Le design du jeu est basé sur la musique. Et ça, c'est époustouflant.
D'accord, merci.
Wonder Song, c'est d'ailleurs un jeu qui a été fait par les... Ça n'a pas été... C'est les mêmes développeurs que Chicory aussi, non? Ou c'est Lena Raine qui a fait la musique de Chicory? Je ne sais pas qui a fait la musique de Wonder Song.
Ah, la musique... c'est The Shell in the Pit, Gordon McGladdery, me semble.
D'accord, ouais.
Ouais, c'est Gordon McGladdery.
Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait poser une question ou réagir?
Je sais pas si la question était posée, mais je me demandais un peu, Néa, quel matériel tu utilisais, c'était ton propre matériel, si au fur et à mesure de voilà de ton expérience, tu avais accumulé des objets, des instruments, ou alors si des fois les studios te mettaient à disposition du matériel, voilà, et dans quelles conditions du coup t'enregistres.
Donc, bon, spécifiquement pour Venma, parce que c'est le seul jeu où j'ai vraiment pris beaucoup de temps à enregistrer, c'est le fun d'être d'origine indienne parce que ben, ta maman indienne, ben, elle donne plein de trucs. Fait que moi, j'étais déjà bien stockée avec des ingrédients, avec dans les maisons indiennes, on utilise tout le temps du stainless steel pour nos plats et les verres, c'est tout le temps du stainless steel. Fait que c'est des choses que j'avais déjà dans la maison. J'avais pas besoin d'aller les acheter ou whatever. En fait, oui, j'ai acheté mon premier pressure cooker, mais c'est vraiment un pressure cooker indien, pas électronique, pas spécial, mais vraiment celui qui ressemble à celle que j'avais chez mes parents. Fait que pour ça, oui, mais en général, si j'avais peut-être un plus gros budget. Peut-être, mais avec le budget avec lesquels on travaille dessus, c'est pas vraiment réaliste en ce moment. Mais on verra dans le futur.
Très bien, merci.
Merci beaucoup, Néa, de nous avoir rejoints pour cet épisode.
Merci de m'avoir invité, merci beaucoup. C'était un plaisir.
Plaisir partagé. On va maintenant écouter la chronique de Anna qui va nous parler de l'industrie qui s'approprie les créations de fans.
Quand on parle de création de fans, on met souvent en avant leur créativité, leur passion, leur capacité à prolonger les univers de jeux vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde l'autre côté du miroir. Car je vous parle toujours des fans et des multiples facettes de leur créativité, mais assez rarement, finalement, de la manière dont les industries s'approprient ces créations. La créativité des fans circule. Elle circule sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, parfois même sur une affiche dans la bouche de métro, sur un t-shirt vendu dans un commerce ou bien la vitrine d'un grand magasin. La créativité des fans s'inscrit dans des rapports de pouvoir entre des communautés passionnées, mais aussi des industries culturelles bien structurées. En recherche vidéoludique, on parle de fan labor. C'est le travail créatif réalisé gratuitement par les fans. Fan art, vidéo, cosplay, théorie, détournement. C'est-à-dire du temps, des compétences, de l'énergie émotionnelle, du travail. Et pourtant, ces créations sont souvent mobilisées par les marques pour nourrir leur image, leur visibilité, leur communication et attirer encore plus de fans. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on l'a vu avec Baldur's Gate 3 ou encore Final Fantasy VII, Rebirth. Les comptes officiels repartagent régulièrement des fanarts de leurs personnages. C'est beau, c'est créatif, ça fait vivre la communauté. Mais ces images deviennent aussi du contenu de communication gratuit pour la franchise. Le fan gagne de la visibilité, certes, mais la marque gagne de l'engagement, de l'affect, de la présence en ligne. Autre cas, les concours créatifs. En 2024, autour de League of Legends et de l'univers d'arcade, Riot Games a multiplié les appels à création. Dessins, cosplay, vidéos, détournements. Des milliers de participations ont eu lieu, mais seulement une poignée de gagnants. Et pendant des semaines, des réseaux sociaux remplis de contenus gratuits qui maintiennent la licence dans l'actualité. On parle ici d'économie de l'attention. Les fans, eux, produisent de la visibilité, mais pour la marque. Les deux ne jouent pas dans la même cour. On le voit aussi avec les théories de fans, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans l'univers du cinéma d'ailleurs. Autour de Zelda, Tears of the Kingdom, ou des fans de la série Bridgerton, des communautés entières analysent le moindre détail du scénario. Certaines interprétations deviennent même tellement populaires que parfois, elles se retrouvent étrangement validées dans des interviews de développeurs ou encore intégrées dans le lore officiel. La création de sens devient collective, mais la reconnaissance, elle, reste très asymétrique. Et puis, il y a le cosplay. Lors de salons comme la Paris Games Week ou encore la Gamescom, les comptes de jeux comme Genshin Impact ou Honkai Star Rail relaient massivement des photos de cosplayers. Ça donne une image vivante, une image chaleureuse, proche des communautés. Mais derrière chaque costume, il y a des heures et des heures de travail, du matériel, de l'argent investi. La création de fans devient une vitrine pour la marque. Ce qui relie toutes ces situations, c'est une asymétrie de pouvoir. Les fans créent par passion, par attachement, par envie de partage. Les industries, elles, évoluent dans un cadre économique, stratégique et juridique. Les univers appartiennent aux marques. Les fans peuvent créer, oui, mais tant que ça sert l'image de la franchise. Mais le jour où ça dérange, le cadre juridique peut très vite rappeler qui décide. Alors bien sûr, tous les studios ne font pas ça de la même manière. Certains créditent les artistes, collaborent avec eux et en recrutent même. Mais ces trajectoires restent minoritaires face à la masse de créations de fans qui circulent chaque jour. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien que les fans ne sont pas seulement des publics enthousiastes, ce sont des acteurs culturels, des producteurs d'images, de récits, d'idées, de visibilité. Et peut-être que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement de célébrer leur créativité, mais de réfléchir aux conditions dans lesquelles elle est utilisée, valorisée ou parfois récupérée. Pour que chaque fan art de Final Fantasy, partagé par un compte officiel, que chaque cosplay de Genshin Impact mis en avant sur un salon, que chaque théorie sur Zelda reprise dans une interview, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a du travail, du vrai travail, et ce, même quand il est porté par la passion. Alors je vous pose la question, tout travail ne mériterait-il pas salaire ?
Merci beaucoup Anna pour ta chronique. Est-ce que, oui, Tizona, tu voulais réagir ?
Oui, je voulais dire, bah, merci beaucoup pour cette chronique, c'était très intéressant et très dense. Il y a beaucoup à dire sur toute la dimension aussi dont tu as parlé, de ce qui est appelé le travail spéculatif. Il y a des personnes qui essaient de faire de la sensibilisation à ça pour dénoncer tout ce qui est concours spéculatif justement pour faire des arts gratuits et littéralement faire travailler des gens gratuitement. Ce qui est assez intéressant, c'est certaines boîtes, surtout. Enfin, on voit des appels du pied, notamment de Oyo pour Genshin, pour Honkai Star Rail, mais c'est le cas aussi de la plupart des jeux gacha qui se lancent, etc. Il y a des appels aux content creators qui se font très tôt, ou qui se font de manière régulière, et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment des programmes de recrutement, mais ça te recrute à en fait être fan artiste, on va dire, un peu reconnu, où tu vas avoir des publications, mais t'es pas payé en fait. Tu as éventuellement t'as des avantages, t'as de la monnaie en jeu, enfin monnaie de jeu qui t'est donnée, t'as des goodies pour ce, enfin ça dépend des boîtes, mais t'es pas payé pour autant. Mais pour autant, t'as quand même eu un processus de recrutement. Tu as une reconnaissance et tu dois respecter des choses parce que tu deviens plus ou moins affilié sans pouvoir le mettre sur ton CV que t'as travaillé pour ces énormes boîtes. En plus, c'est quand même pas rien. Et à côté, tu récupères rien, en fait. Tu travailles malgré tout gratuitement parce que c'est une gratification matérielle, c'est pas ça qui paye les factures, ni qui s'ajoute à ton CV pour donner du poids à ton expérience. Donc je trouve que c'est assez intéressant, avec ce dont tu as parlé, etc., de se dire qu'il y a des entreprises qui ont réussi à retourner ça à leur faveur en se disant, évidemment, la visibilité, ça aide beaucoup à la popularité de certains jeux qui ont réussi à gagner des fans grâce à ça. Et te dire, ils ont réussi à créer un schéma capitaliste pour faire en sorte de vraiment rationaliser le travail gratuit et faire en sorte que ça paraisse, que tu paraisses comme étant élu si tu es choisi.
Exactement. C'est tout le problème aussi de la passion, hein. C'est que quand on est passionné, on fait beaucoup de choses et en fait, on ne se rend pas compte que ça peut être ça peut très vite nous desservir dans la mesure où justement, comme tu le disais à juste titre, quand tu parlais des content creators et justement des fans, moi, ça me marque toujours beaucoup quand on fait la distinction, parce qu'en fait, le content creator, parfois, peut justement être payé par une entreprise pour promouvoir un contenu, mais le fan, il va le faire spontanément parce qu'il est tellement attaché à la marque, il a tellement envie de raconter des choses, que du coup, il va créer du contenu. Et en fait, il ne va pas être reconnu par ça alors que ça va être utilisé. Et je trouve ça vraiment quand même vachement injuste. Et bon, encore une fois, tout dépend de l'entreprise, de la façon dont c'est utilisé, du contenu, bien évidemment. Il y a des fans qui sont très heureux aussi de faire ça et qui ne voient pas le côté injuste que je mentionne. Mais c'est vrai que moi, ça me déçoit toujours parce que je me dis que c'est tellement de travail de qualité, c'est tellement parfois d'heures passées dessus. Faut vraiment le mettre en avant. Faut pas oublier que derrière, on a des artistes, on a des personnes humaines tout simplement qui ont consacré du temps, de l'énergie, et il faut savoir tout simplement les reconnaître. Et voilà, enfin. Mais tu le dis très bien, on a réussi à créer un schéma capitaliste, donc voilà. c'est assez terrible. Voilà.
Encore merci pour ta chronique, Anna. On va donc maintenant passer à la discussion pour parler de comment lutter contre la montée des conservatismes dans le jeu vidéo.
Le 31 août 2025, Théo Dezallet, journaliste à Mediapart, dans sa chronique aux manettes, s'est entretenu avec Marie-Jam Teach-Calvité, j'espère que je prononce pas trop mal son nom, pour parler de son ouvrage Everything to Play For, How Video Games Are Changing the World. Tout reste à jouer, comment les jeux vidéo changent le monde. Alors l'autrice est d'origine lituanienne, mais elle a émigré au Royaume-Uni, d'où le fait que, si vous allez sur son site notamment, il y a pas mal de contenu lié au syndicat au Royaume-Uni. Et elle a une chaîne YouTube aussi, Left Left Up, qui propose des formats courts sur différents sujets, jeux vidéo et politique. Et elle se dit très proche des milieux punk et anar, voilà. À la base, je cherchais donc des ressources sur comment combattre les idées réactionnaires dans le jeu vidéo, et ceux qui passent leur temps à voir notamment des choses woke partout, ou à une autre époque, hein, rappelons-le, ceux qu'ils appelaient les SJW, Social Justice Warrior. Et là, je tombe sur cet article au titre accrocheur, « La création de jeux progressistes est une impasse ». En fait, ça va plus loin que ça, elle montre comment la gauche peut parfois avoir tendance à bouder les jeux vidéo, notamment dans une logique de distinction sociale et culturelle, mais aussi par technophobie. Elle pose une question, c'est peut-on avoir un impact, peut-on parler de culture populaire ou de politique sans se soucier d'un des plus importants secteurs de divertissement au monde ? Alors il y a l'importance de s'emparer de ce pan de la culture populaire pour amener des réflexions progressistes, mais pas seulement sur le contenu, parce que par exemple, pour revenir au titre, un jeu, c'est l'exemple qu'elle donne en tout cas, un jeu comme Paper Please, qui est essentiel, mais il a de fortes chances de ne toucher qu'un public déjà acquis, convaincu. Et c'est un peu les questions qu'elle pose, c'est cette impasse qu'elle nous pousse à interroger. Donc les questions, pour démarrer la discussion et partir de là, c'est comment diffuser des idées progressives, inclusives, en voulant s'adresser à un plus large public. Il y a l'idée de se poser la question de la réception derrière, pour qui on fait les jeux, et de comment prendre part à cette bataille culturelle, qui d'ailleurs n'a pas lieu seulement dans le jeu vidéo, et en ce moment l'actualité n'arrête pas de nous le rappeler. Donc un peu, moi je me demandais c'était quoi, qu'est-ce que vous pensez de ces affirmations, mais aussi est-ce que vous avez des pistes ou repéré des initiatives qui puissent permettre justement de combattre les mouvements réactionnaires dans le jeu vidéo. Donc je suis assez curieuse de savoir un peu vos points de vue là-dessus.
Je réagis aussi. On a eu un peu la même chose que ce qui a été amené là sur la, on va dire, l'opportunité d'aller intervenir directement sur des communautés de gamers. On a eu la même chose en France avec le RNFN qui avait aussi ça c'est des choses qui ont été révélées et qui sont posées quoi, vraiment de gens qui avaient pour mission du coup d'aller sur donc les forums de jeuxvideo.com pour entretenir, pour titiller un petit peu, faire dériver les discussions en fait, pour amener en fait les sujets de prédilection du coup de ce parti politique là et vraiment d'avoir bien visé le truc avec du coup une stratégie qui est assez semblable. Je sais pas si du coup, enfin je sais pas, moi ça me paraît pas forcément une stratégie hyper intéressante peut-être de vraiment jouer sur ce même créneau là, d'aller intervenir et d'essayer de diffuser des trucs un peu en secrète comme ça, mais je trouve que c'est aussi intéressant ce qu'elle dit, Myriam dit dans l'article que t'avais proposé sur le fait que les conditions de production du jeu aussi, elles sont importantes, et que... moi, je suis pas sûr d'adhérer exactement à son exemple, mais elle dit qu'il faudrait presque mieux un jeu avec des flingues s'il est produit par des gens... Enfin, s'il est produit dans des conditions intéressantes, s'il peut être amené à être joué, on va dire, par un plus grand nombre, plutôt qu'un jeu tout pipou avec un joli message... qui du coup lui par contre serait fait dans des conditions assez exécrables et avec des ouvriers qui sont hyper maltraités.
Je réagis juste par rapport à ce que vous disiez par rapport à la toxicité justement dans les communautés. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre encore une fois que le jeu, en fait je pense qu'on l'oublie un peu parfois, mais c'est vrai que le jeu c'est tellement un espace en fait d'échanges multiples et variés, et on peut tellement en fait le détourner, se l'approprier pour faire passer entre guillemets le message qui nous convient. Et c'est assez terrible parce que même si on voudrait vraiment essayer de faire passer, je pense, un message assez clair, c'est toujours assez complexe, qu'il y a tellement de strates, que ce soit à travers le jeu lui-même, à travers sa narration, à travers son gameplay, son game design, ou comme vous le dites à juste titre, ses conditions de production, ou même à travers sa communauté, qui du coup, elle va encore réagir différemment. Je trouve que ça demande d'avoir tellement conscience de comment est-ce que tu communiques, entre guillemets, ce message à travers toutes ces strates, que ça rend la question extrêmement complexe, en fait. C'est très difficile parce que, enfin, combien de fois on a utilisé le jeu vidéo pour passer un message qui est censé être positif, qui finalement est redétourné par un groupe qui est contraire à ça, pour pouvoir dire, bah, vous voyez, enfin, s'il y a du montage, on coupe derrière pour dire, bah, non, c'est plutôt ce message-là qu'on veut passer. Je trouve que c'est très compliqué parce qu'à la fois, le jeu vidéo n'est pas du tout un terrain neutre, mais c'est vrai que il y a tellement de jeux aussi qui ne prennent pas position, qui du coup prennent absolument aucun parti, qui du coup sont un peu, alors je dirais pas des toiles blanches, hein, mais justement des toiles déjà peintes, où en fait les gens vont venir et pouvoir dire, bah voilà, moi je vais rajouter ça et ça va lui donner un sens complètement contraire. Et l'article parlait justement de Papers, Please, mais je trouve que c'est heureusement qu'on a des jeux comme ça, parce qu'en fait, ce sont des jeux qui sont tellement affirmés et effectivement auquel pas tout le monde va adhérer, mais bon, c'est pas tant l'objectif du jeu non plus, c'est vraiment de proposer en fait un point de vue et de forcer en fait le joueur à être dans un personnage qu'il ne peut pas contrôler, qu'il n'a pas envie tout simplement de jouer, dans une histoire d'ailleurs qu'il n'a pas envie d'écrire, hein, parce que si vous y aviez joué, vous verrez que personne n'a envie d'écrire cette histoire. Elle est assez terrible. Mais je trouve que justement, c'est très bien parce qu'en fait, ça nous force à adopter un point de vue qui n'est pas celui qu'on voudrait avoir. Il y a trop peu de jeux qui font ça. Alors encore une fois, c'est peut-être pas l'objectif d'un jeu, mais bon, un jeu, c'est pas que du divertissement, c'est aussi ça, hein. C'est approprié pour faire passer un message. Donc je trouvais que c'était en tout cas super intéressant parce que ça posait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions aussi sur ce qu'est un jeu vidéo tout simplement et pour quelles raisons on le produit.
C'est très intéressant. Mais moi, ce qui m'a un petit peu, pas étonnée parce que j'en veux pas du tout l'article de pas en avoir parlé, mais ça me questionnait aussi sur notre manière de consommer des jeux et la manière, on va dire, politique de consommer des jeux, parce qu'à l'heure actuelle, c'est difficile de pas passer par tout ce qui est GAFA, etc. Si on veut jouer à un jeu, c'est Steam, c'est Sony, c'est Microsoft, c'est Apple, c'est Google Play. Et c'est assez compliqué, parce que même si on part sur Itch, alors ce qui est, je pense, l'un des moins pires, sauf si on a un exé, d'autres exés directement de dev, mais même Itch, il y a aussi les contraintes dont on a pu parler ces derniers mois lorsqu'il y avait eu l'affaire de la censure de certains jeux qui ont été retirés des marketplaces de boutiques de jeux en ligne. Donc Itch est aussi sujet à tout ce qui est lié aux établissements bancaires, etc. Et ça donne une question de comment est-ce que on consomme d'une manière politique sans rentrer à un moment ou à un autre dans un schéma qui est soit un géant capitaliste, soit qui va financer des trucs forcément pas globes, parce que c'est le cas de à peu près 99% des entreprises de ce genre. Et comment est-ce que on peut consommer autrement, à quel point c'est problématique ou pas. Et encore, on parle même pas de la partie d'une approche éco-responsable dont Gomis a pu parler. Mais je trouve que c'est assez compliqué de dire aujourd'hui, moi j'ai envie d'avoir une posture non seulement de joueuse, mais aussi de consommatrice qui soit en lien avec mes valeurs, etc. Mais c'est super dur en fait de faire ça parce que c'est très complexe, ou alors même même si on pirate, ce qui est possible, ça reste une démarche qui a longtemps été militante que de pirater, mais le pirater, ça donne de la visibilité aussi à certaines œuvres. Donc je trouve que c'est assez insolvable pour l'instant de se dire c'est quoi le moins pire pour être aligné à mes valeurs, pour pas alimenter des entreprises qui financent des génocides ou ce genre de choses. C'est très compliqué de jouer éthique.
Clairement, et comme tu le dis, ça revient à ce que disait justement Gomessa sur tout ce qui est éco-responsable, c'est se dire en tant qu'individu, déjà, est-ce que le choix individuel a tant que ça de poids? C'est très compliqué. Et étant donné qu'on est dans une un système hégémonique qu'est le capitalisme, c'est dur de s'en passer.
Merci pour cette discussion qui était très intéressante. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions nos chroniqueurs et chroniqueuses, Néa pour avoir accepté notre invitation, Vincent pour la programmation musicale et Gomeissa pour la technique. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, de partager nos publications sur les réseaux sociaux et de parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre Ko-fi, cela nous permettra de continuer à produire nos programmes et à vous proposer toujours plus de points de vue sur le jeu vidéo. Nous allons nous quitter donc sur le morceau Endless Possibility composé par Tomoya Otani et Jared Reddick pour l'OST de Sonic Unleashed. I see it now.